Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes et des patrons qui traversent cette crise inédite. On découvre des femmes et des hommes qui bâtissent déjà le monde de demain. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors on n'a pas de pétrole mais on a des idées en France et pour financer toutes ces idées, on a en plus des sites de financement participatif. Notre invité, notre témoin du jour, le pionnier du secteur, c'est KissKissBankBank. Son ambition, participer à un changement positif de la société. Vincent Ricordo, le fondateur de KissKissBankBank, est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, en effet, Emmanuel, comment le financement participatif peut aussi voler au secours de notre patrimoine français? Eh bien, D'Artagnan collecte de l'argent pour sauver, par exemple, des châteaux, des monuments. Son cofondateur nous dira comment il fait et ce sera dans quelques minutes.
Cette marque aussi a pu exister grâce à une plateforme de financement participatif. L'entreprise 1083 produit des jeans 100% français et ça cartonne. On racontera son histoire à 13h30.
Bien sûr, les trophées Europe 1. Nous avons retenu aujourd'hui la start-up Paulette, une paille en tige de blé. C'est très sérieux. Le fondateur va-t-il nous convaincre et va-t-il convaincre notre patron du jour? Réponse à 13h50.
Et en fin d'émission demain au travail avec cette question, le bien-être en entreprise, c'est véritablement l'enjeu majeur du moment. Nature Opéra a mis en place un questionnaire anonyme pour prendre la température auprès de ses salariés. On verra si ce genre de démarche fonctionne.
Bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Alors vous en avez l'habitude, La France Bouge, et l'émission de toutes ces initiatives qui font justement bouger la France. Aujourd'hui, le financement participatif, ce mode de finance alternative qui cartonne.
Et on va en parler avec vous, Vincent Ricordo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG, le cofondateur de KissKissBankBank. KissKissBankBank, ça existe depuis 11 ans. Contrairement à ce que son nom indique, c'est 100% français. Votre mission, c'est de permettre à chacune et à chacun d'entre nous de nous engager dans des projets positifs, de les financer, de les accompagner. Vous affichez une croissance constante. Plus de 30 000 projets ont vu le jour grâce au crowdfunding, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'on appelle le financement participatif. Malgré la crise, Vincent Ricordo, les Français ont-ils continué à lancer des projets?
Oui, pendant une période de crise, en général, les gens sont plus solidaires qu'à l'accoutumée. Donc, pendant la période qu'on vient de traverser, enfin, si on considère que la crise est relativement courte dans notre espace-temps,
donc, mais que nous traversons.
Plus la crise est prononcée et plus les gens sont solidaires, donc plus il y a de projets qui arrivent et plus il y a de gens qui financent des projets et plus l'impact positif qu'on recherche dans la société est grandissante.
C'est-à-dire que de façon très concrète, pendant le confinement, certains ont eu des idées, avaient du temps, donc ont lancé des projets sur votre site. Vous avez une croissance plus importante que ce que vous auriez pu avoir s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, le confinement.
Alors, on n'a pas fait partie de ces startups qui ont explosé pendant le Covid, mais on a effectivement une croissance plus soutenue que l'an dernier. Il y a eu deux grandes catégories de projets pendant le Covid. Il y a eu les projets solidaires. On a collecté en quelques jours ou quelques semaines presque 2 millions d'euros pour les projets solidaires, distribution de masques, distribution de paniers repas, sauver des restaurants, sauver des petites boutiques qui étaient en peine. Et puis, on a eu aussi un élan assez important dans une opération qu'on appelait clic des clics pour les gens qui voulaient changer de vie. Donc du coup, on a plein de gens qui sont venus chez nous pour vraiment être dans une logique de reconversion professionnelle. Et c'est avec plaisir qu'on a pu accompagner évidemment toutes ces idées-là.
Donc on va revenir un petit peu sur le cœur même de votre activité, parce que vous nous dites que vous avez accompagné des projets solidaires, vous avez aidé à des reconversions. Comment ça marche, KissKissBankBank? Si j'ai envie de monter mon projet, comment et à quel moment vous intervenez?
Alors, on est organisé autour de grandes causes, l'autoproduction indépendante, les médias indépendants, la santé, l'éducation et les artistes indés au sens large. Et donc, en fonction de l'idée ou du projet que vous avez, vous arrivez sur la plateforme, vous le déposez et assez simplement, vous allez solliciter votre communauté, vous allez solliciter le grand public qui va vous aider à financer le projet. Et en échange, vous allez leur donner des choses en contrepartie qui participent à l'essence et à la naissance de votre projet. Donc on est vraiment dans une logique de don contre don. Il n'y a pas de logique de retour sur investissement. On est dans un élan de solidarité, dans un élan d'optimisme partagé où nos projets naissent grâce aux autres.
Mais vous faites une sélection de ces projets. C'est-à-dire qu'Elisabeth dit, si j'ai une idée, je me mets tout de suite. Vous faites une petite sélection, il y a une modération. Tous les projets qui auraient envie d'arriver n'ont pas le droit ou ne peuvent pas arriver sur KissKissBankBank.
Oui, on trie en fait les idées des projets. C'est-à-dire qu'une idée ne suffit pas à faire un financement participatif. Il faut avoir un projet qui soit déjà bien construit, intelligible, décrit sur une page web qui soit compréhensible par tout le monde.
Oui, donc il faut déjà amorcer le travail. Si j'ai envie de monter mon projet mais que je n'ai pas de site internet, déjà je pars avec un inconvénient.
Non, pas forcément un site internet, mais une logique qui soit descriptive sur une page sur le site KissKissBankBank. Donc on vous aide à faire ça. On a des gens, on a ce qu'on appelle ça les coachs, qui vous accompagnent quelle que soit votre idée. Donc vous n'êtes jamais laissé seul.
En moyenne, c'est un projet sur quatre, c'est ça que vous mettez en ligne ?
On est toujours à peu près sur ce ratio ? Oui, sur quatre projets qu'on reçoit aujourd'hui, on a effectivement un carrément en ligne. Ouais.
Et après, on choisit effectivement de se faire rémunérer, le mot n'est pas beau parce qu'on est vraiment sur du participatif, mais par exemple, un artiste va dire « je vous envoie mon CD en avant-première et gratuitement ». Qu'est-ce qui marche le mieux comme retour du don que moi je peux faire sur des plateformes comme les vôtres, Vincent Ricordo ?
Il y a deux catégories de projets. Il y a les projets qui en fait consacrent des contreparties émotionnelles, où en fait vous allez vivre le projet avec le créateur. Et donc là, c'est très varié, mais
c'est
ça peut être des invitations, ça peut être des rencontres, et c'est des choses qui vont vous laisser des souvenirs. Et puis après, vous avez les projets qui lancent des produits, et là, bien évidemment, ces projets se servent de la plateforme pour pré-vendre leurs produits, et donc ce que vous avez en échange, eh bien, c'est tout simplement le produit qui correspond au projet.
Elisabeth le disait, hein, ça fait 11 ans que vous existez, plus de 30 000 projets qui ont été financés, je crois qu'on n'est pas loin des 150 millions d'euros qui ont pu être levés grâce à cette technique. C'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier ? Quand vous retournez derrière, vous vous dites « Tiens, sans nous, ça n'aurait pas été possible. » Et ça, je suis sacrément fier d'y être arrivé.
Alors, il y a deux choses. Il y a le plus, je peux vous en donner deux. Le plus spectaculaire,
allez,
c'est Bob Lennon, qui est un YouTuber qui sort un livre dont vous êtes le héros, qui a collecté 1 800 000 euros, qui est le record absolu au niveau européen. Et puis après, il y a le projet dont on est le plus fier vraiment, qui est le film de Cyril Dion, qui s'appelle Demain, qui est le record de docu vu en salle de cinéma, qui est la première brique vraiment d'un cinéma engagé, où on propose des solutions pour changer le monde. On est évidemment très fiers de l'avoir hébergé.
Et ça, soyons clairs, hein, sans vous, c'était pas possible. C'est-à-dire que vous avez participé de façon très concrète au financement du film.
Alors je ne sais pas si ces deux projets n'auraient pas existé sans nous, mais ça aurait été différent, c'est sûr.
En tout cas, on va continuer à écouter le monde changer avec vous, Vincent Ricordo. Vous restez avec nous, vous êtes le PDG et le cofondateur de KissKissBankBank.
Europe 1.
13h17 sur Europe 1.
À suivre, fédérer une communauté et investir de l'argent pour sauver notre patrimoine.
Et oui, D'Artagnan, c'est cette start-up qui met plus que jamais en application le fameux tous pour un, un pour tous. Et c'est ça aussi La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est très heureux avec Elisabeth d'être avec vous comme chaque jour jusqu'à 14h dans La France Bouge avec Vincent Ricordo, aujourd'hui notre grand témoin, PDG et cofondateur de KissKissBankBank. On parle bien évidemment de financement participatif et de cette utopie de réussir à financer des projets qui sûrement n'auraient pas trouvé dans la finance normale les acteurs pour réussir à naître.
Et avec vous aussi Romain Delhomme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de D'Artagnan. D'Artagnan, ça existe depuis septembre 2015. Allez, je vais commencer avec quelques chiffres. 10 millions d'euros en 5 ans, 200 000 utilisateurs. Votre promesse, c'est que vous aidez les gestionnaires de monuments privés, publics, à collecter des fonds pour les restaurer, pour les sauver en quelque sorte.
Oui, on est une sorte de mini KissKissBankBank du patrimoine. En fait, nous, on a aussi une mission un peu d'intérêt général puisque les projets que nous accompagnons soutiennent des propriétaires de monuments privés comme publics pour engager des travaux de restauration de leurs monuments. Et c'est presque un service d'intérêt général puisqu'on sait qu'un monument qui est en bonne santé, un monument qui va bien, attire du monde. Et ce public, lorsqu'il se balade dans les territoires partout en France, ils vont à l'hôtel, ils vont au restaurant. Et donc du coup,
ça
rejaillit forcément sur une région. Et on dit souvent que 1 euro investi dans le patrimoine a des retombées économiques de 30 à 40 euros. Donc ça, c'est assez intéressant.
Alors vous allez peut-être trouver ma question toute bête, mais vous êtes tout jeune. Comment cette idée arrive ? Comment vous dites un jour, bah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie ?
Ah, je pense que nous, quand on a eu l'idée avec Bastien de créer D'Artagnan, c'était l'émergence de l'économie collaborative. C'est là qu'on commençait à entendre parler de KissKissBankBank, de Ulule, de Airbnb. Et on s'est dit qu'on trouvait ça sympa, après avoir passé plusieurs années dans la finance, de se dire que c'était justement le public qui allait plébisciter ou non un projet et pas simplement un banquier derrière son ordinateur qui peut-être n'était pas très sensible à cette cause-là. Donc on a commencé à lancer cette initiative D'Artagnan avec au début un projet, puis zéro.
Mais il n'y a pas un château quelque part dans la famille en ruine où vous avez dit tiens, on aurait besoin
de
ça ?
Non, nous on vient pas de ce monde-là. On a fait une école de commerce avec Bastien et c'est vrai que le monde de la finance nous paraissait un petit peu austère, un petit peu...
moins de sens.
Et donc on voulait donner sens à notre vie sur une des passions qu'on a, qui est le patrimoine, et on est très heureux de faire ce métier.
Alors quand on va sur votre plateforme d'Artagnan.fr, d'Artagnan.fr, D'Artagnan au pluriel. Vous proposez, tiens, par exemple, j'ai regardé hier soir, vous proposez par exemple de secourir une maison à Beyrouth, ou encore l'orangerie de Grenoble, la restauration des vitraux de Notre-Dame-des-Anges, ou encore la rénovation du musée des troupes de marine. Enfin, j'en cite quelques-uns. Comment vous les choisissez ? On vient à vous, on dit voilà, j'ai besoin là pour. J'ai besoin de restaurer. C'est vous qui avez l'idée. Comment ça marche ?
Alors, comme toute jeune structure, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre travail qui consiste à démarcher des porteurs de projets potentiels, des propriétaires privés, des collectivités territoriales pour nous faire connaître et proposer nos services. Et puis, forcément, au bout de 5 ans, en étant devenu dans ce secteur du patrimoine, de la culture, le leader du financement participatif vraiment sur ce secteur bien précis, bien, des porteurs de projets viennent à nous. Et en ce qui concerne la sélection des projets, quelque part, on les accepte quasiment tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de savoir si le monument est beau, s'il vaut la peine d'être sauvé. Pour nous, ils le valent tous. Le gros critère de sélection que nous avons, c'est l'envie du porteur de projet à porter son projet, c'est-à-dire à communiquer sa passion auprès de sa communauté et aussi de la nôtre.
Mais ce qui est passionnant, c'est que depuis 2017, vous avez aussi lancé des achats collectifs de châteaux. Là, comment ça marche ? Ça fonctionne à partir de 50 euros, c'est ça l'idée ?
Voilà. Bah, en fait, on a basculé un petit peu notre modèle. Au début, on ne faisait que du don contre don. Et aujourd'hui, on a lancé des campagnes en investissement où cette fois-ci, on propose à notre communauté de devenir co-actionnaire d'une société qui se propose de racheter un château en ruine. C'est une idée qu'on a eue début 2017 et qu'on a lancée comme ça sur les réseaux sociaux.
Il y a un peu de finance là.
Un petit peu d'ingénierie financière. Voilà, on a mis quand même de nombreux mois à cadrer tout ça juridiquement parce que c'est pas simple de se dire qu'on va faire entrer des milliers de personnes dans une société avec les risques qu'on pourrait y trouver. Et donc on a lancé cette idée pour le rachat de notre premier château qui s'appelle le château de la Motte-Chandonnier qui se trouve dans la Vienne avec ce petit pitch devenez châtelain pour 50 euros et en échange de 50 euros. En fait, vous avez 4 grandes promesses. La première, c'est de pouvoir dire qu'on est voilà, presque co-châtelain. Et ça fait plaisir, je pense, dans des dîners en ville ou auprès de ses proches. Le fait d'avoir aussi une entrée gratuite à vie dans son monument, puisque ça reste aussi le monument de tous ces actionnaires-là, de participer directement aux grandes prises de décision, puisque nos actionnaires votent lors des assemblées générales, et enfin de participer physiquement à la restauration de ces châteaux-là, puisqu'ils participent à des chantiers de bénévoles. Et le concept a tellement plu qu'en 2 mois, on a collecté plus d'1,6 million d'euros.
Et combien de
25 000 personnes 25 000 et 115 personnes. Nationalités de représentés. Donc à l'époque, c'était la plus grande campagne européenne, je pense, en financement participatif. Depuis, le projet dont Vincent a parlé nous a dépassé. Et on a eu la chance de renouveler l'expérience 2 fois, puisqu'on a acheté un château en 2019 qui se trouve dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle le château fort de Lébeaupinay, et le château de Vibrac, qui est notre petit dernier, qui se trouve en Charente.
Et là, les travaux sont finis, ça y est ?
Non, pas du tout. En fait, nous, le modèle, cette fois-ci, je vais prendre plutôt la casquette du propriétaire de monuments, c'est de créer un modèle économique pérenne pour nos châteaux. C'est-à-dire de se dire, on a lancé une campagne, on a acheté le château, c'était presque la partie la plus facile. Mais maintenant, il faut le faire vivre et surtout compter sur nous-mêmes. Et donc, pour les faire vivre, on les ouvre au public, on les fait visiter, on les privatise, on vend des produits dérivés. Et finalement, c'est toute cette économie qui se crée autour de monuments qui nous permet d'engager les travaux de restauration. Et pour vous donner un petit chiffre, à la Motte-Chandonnier, en fonds propres, on a investi plus de 600 000 euros dans le programme de travaux.
Ouais. Vincent Ricordo, vous êtes le PDG, le cofondateur de KissKissBankBank. Investir dans du patrimoine, c'est aussi une branche que vous explorez. Il y a des projets comme ça que vous soutenez sur KissKissBankBank.
Alors sur KissKissBankBank, nous n'avons pas de projet de patrimoine. On est très content d'avoir vu naître des plateformes très verticales comme ça, sur thématiques bien précises. Et D'Artagnan, on est la meilleure preuve. Et on est très content et très fier que D'Artagnan défende le patrimoine français aujourd'hui.
Oui, parce que ce qui est très important, et peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, pour KissKissBankBank, c'est presque une utopie quand même derrière tout cela, parce que vous voulez donner du sens à tout ce que vous faites. C'est pas tous les projets entrepreneuriaux qu'on pourrait avoir qui viennent sur KissKissBankBank. Il y a une vraie, je sais pas si vous avez le mot, mais il y a une vraie utopie derrière tout cela, dans votre modèle.
Oui, il y a eu une utopie parce qu'on s'est dit en 2007 ou 2008 que peut-être la finance pourrait se transformer en une finance en peer-to-peer, c'est-à-dire de particulier à particulier, et qu'à l'époque tout le monde nous prenait pour des dingues. Aujourd'hui, le marché mondial, c'est 1 000 milliards de dollars. En France, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a beaucoup de plateformes sur plein de thématiques. Donc, de l'utopie, on est passé à la réalité. Mais, encore une fois, ne nous leurrons pas. Seuls les projets qui marchent chez nous sont des projets qui ont des raisons d'exister. Les lubies, les projets qui sont immatures, les projets qui ne sont pas bien défendus, ne naissent pas chez nous. Donc, on est vraiment une machine à faire naître des vrais projets.
Eh bien, un grand merci à Romain Delhomme, le cofondateur de D'Artagnan avec un S, parce que ce n'est pas obligatoirement comme ça qu'on imaginerait pouvoir l'écrire, d'avoir été vous aussi notre invité. On vous garde, hein, vous Vincent Ricordo, le cofondateur de KissKissBankBank. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, il est 13h27. À suivre, que deviennent ces entreprises qui ont pu voir le jour grâce à des plateformes de financement participatif?
Eh bien, un exemple avec les jeans 1083. Son cofondateur sera également avec nous dans La France Bouge dans un instant.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et dans cette France Bouge, on parle aujourd'hui financement participatif avec Vincent Ricordo, le PDG et cofondateur de KissKissBankBank, l'un des plus gros acteurs du marché en la matière. Alors KissKissBankBank, c'est même devenu un groupe. Hein, aujourd'hui, on va citer les autres plateformes que vous avez. Vous avez l'Indopolis, qui est la première plateforme de projets d'énergie renouvelable en France, et Goodit, qui est la première régie pub solidaire en France. Et vous venez d'acquérir Microdon, qui permet d'arrondir, on le voit tous, là par exemple à la caisse du supermarché, on nous propose d'arrondir pour financer des projets associatifs. C'est vraiment une tendance de fond, là, le microdon, qui permet justement d'apporter beaucoup d'argent aux associations aujourd'hui.
Oui, on est dans une logique de diversification du modèle originel du crowdfunding. Ils le font également sur les fiches de salaire dans plein d'entreprises. Donc on est dans une logique un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un soutien de projet au sens large, mais on soutient une association de façon très précise, un projet bien particulier d'une asso. Et vous pouvez soutenir ces assos soit en magasin, soit sur vos fiches de salaire. Donc c'est une méthode en plein boom.
Alors c'est en plein boom au niveau des supermarchés, notamment l'exemple que je donnais. C'est vraiment en plein boom aussi au niveau des entreprises. Ça se multiplie de plus en plus. Hein.
Oui, leur croissance est très très forte sur les entreprises, plus forte aujourd'hui que chez les distributeurs. Donc vous allez avoir de plus en plus dans les années qui viennent des entreprises qui vont proposer ça à leurs employés.
Et ça vient d'où souvent des employés? C'est les employés qui demandent, parce que ça marche souvent des deux côtés, les employés qui ont envie de participer à une aventure associative, ou c'est plutôt l'entreprise qui se dit, bon allez, on va faire un bon geste qui nous coûte pas cher, parce qu'en plus c'est vous qui allez, on va payer ensemble d'une certaine manière.
On va dire que les politiques RSE des entreprises aujourd'hui, dans les grands groupes, dans les grandes ETI, est quand même un des sujets principaux des directions RH et des directions générales. Donc en général, c'est quand même insufflé par les grands patrons des entreprises qui doublent les montants de leurs employés. Donc c'est un cercle très vertueux.
Aujourd'hui, vous avez donc 4 plateformes, si on compte tout. Vous réfléchissez comme ça à lancer d'autres plateformes thématiques, où vous pensez qu'aujourd'hui le groupe KissKissBankBank, dans sa maison, c'est comme ça que vous appelez votre siège à Paris, vous avez ce qu'il faut?
Non, je pense qu'on a une vocation à consolider le marché français. Individuellement, toutes ces entreprises sont des petites entreprises. Regroupées autour de la marque KissKissBank et compagnie, ça devient un groupe solide avec un vrai impact positif, tangible et costaud. Et on a plutôt vocation à continuer à faire des acquisitions ou continuer à lancer des plateformes dans les années qui viennent. On voudrait notamment toutes les regrouper autour d'un seul portail et faire en sorte de constituer une vraie communauté de citoyens engagés en leur proposant des solutions diverses et variées qui passeront par nos plateformes ou par des plateformes partenaires. On vient notamment de tisser un partenariat avec Hello Carbo ou Carbo qui vous permet de compenser votre empreinte carbone. Donc on est plutôt dans une logique d'élargissement de nos prérogatives que se cantonner à ce qu'on fait aujourd'hui.
Mais les idées ne manquent pas.
Vincent Ricordo, vous avez été racheté en 2017, hein, KissKissBankBank, par la Banque Postale. Ça veut dire que la Banque Postale a sûrement aussi envie de s'offrir une nouvelle image, hein, parce que KissKissBankBank, ce sont des projets positifs, c'est des projets citoyens. Qu'est-ce que ça a changé, vous, au sein de votre entreprise?
Bon, il faut saluer la vision de la Banque Postale qui a tissé un partenariat avec nous en 2010 déjà. Donc c'est la première entreprise au monde à tisser un partenariat avec une entreprise de crowdfunding ou même de fintech. Donc du coup, ils sont dans le prolongement de ce qu'on vit avec eux depuis un certain nombre d'années. Ils sont à nos côtés pour nous donner la possibilité de nous développer de plus en plus vers cet impact positif qu'on veut générer dans la société. Et je vous rappelle que la signature de la Banque Postale, c'est banque et citoyenne, et que KissKissBankBank et compagnie doit devenir la figure de proue ou une des figures de proue de la signature citoyenne de la banque.
Mais justement, on devait vous retrouver par exemple sous forme de corner dans les postes. Ça a pris un petit peu plus de temps. C'est pour bientôt qu'on pourra mieux vous voir, mieux vous connaître, parce que c'est aussi capital pour développer et financer vos projets.
Oui, le but de la Poste ou de la Banque Postale, c'est pouvoir faire en sorte qu'on rencontre notre public en province et dans les bureaux de poste en province. Donc il est prévu que nous installions dans les mois qui viennent, dans les corners jeunes de la Poste, des endroits où vous pouvez entrer en contact directement avec nos plateformes via des iPads et avoir accès à nos coachs très facilement.
Alors on le voit depuis le début de l'émission, hein, il y a énormément de projets qui naissent de ces plateformes de financement participatif. Il y a KissKissBankBank, mais il y a aussi un concurrent à vous, hein, qui est Ulule. Et justement, on accueille aujourd'hui pour notre saga du jour, Thomas Hurier, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
On est ravis de vous retrouver parce qu'on vous connaît bien ici à La France Bouge. Vous êtes le fondateur de la marque de jeans 1083. Et vous Thomas, vous faites partie de ces entrepreneurs qui se sont tournés vers le financement participatif. Mais c'était pas hier, hein, c'était dès 2013. Vous êtes allé sur Ulule, une autre plateforme française. Alors on va revenir un peu à 2013. Comment vous y êtes pris? Parce qu'en 2013, c'était encore assez méconnu, ce système de financement.
Oui, complètement. En fait, moi, j'étais simple commerçant. Je voulais développer une marque de jeans made in France et bio. Et mon petit magasin à Romans ne m'offrait pas la communauté suffisante pour développer cette activité.
Parce que vous êtes à Romans-sur-Isère.
Je suis à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, la capitale de la chaussure et des ravioles. Et du coup, l'enjeu qu'on avait, c'était de toucher une clientèle plus vaste pour amorcer la relocalisation de cette production-là. Le jean est en partie français, avec le denim qui vient de la ville de Nîmes. Et pour tisser du denim en France à nouveau, il fallait un volume de jeans suffisant, au moins 100 jeans à vendre pour démarrer la production. Et donc j'espérais, grâce au financement participatif, vendre plus de 100 jeans. Et en réalité, on en a vendu 1000. Et depuis 7 ans, on a grandi et on a vendu des dizaines de milliers de jeans. Et aujourd'hui, c'est 150 emplois qui sont créés derrière cette idée initiale de précommander des jeans sur Ulule.
Mais est-ce que vous avez été vous-même complètement surpris à l'époque de l'engouement que vous avez pu avoir sur le financement participatif? Comment vous l'expliquez maintenant avec le recul?
Oui, on a été complètement surpris, même dépassé. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de modèles de campagne vraiment réussie ou virale où les médias, les consommateurs en parlaient autour d'eux et faisaient boule de neige. Donc, ça a été une découverte. La deuxième surprise, c'était de s'apercevoir que le financement participatif, c'est plus riche que l'argent. C'est une formule que j'utilise souvent.
Pourquoi?
Mais c'est pour dire que certes, ça rapporte des fonds. Et ça nous a permis d'acheter notre coton bio, de démarrer la production, d'acheter des machines à coudre, etc. Mais en plus de ça, ça apporte de la communication parce qu'on fait connaître sa marque avant même de la mettre sur le marché. Et on connaît les goûts, les couleurs de nos clients avant même de lancer la production.
Donc tout est fait un peu en sens inverse.
Oui, c'est une étude de marché en fait qu'on fait en temps réel sur la base de ses vrais clients et de sa vraie production. Et grâce à ça, on a démarré 1083 de manière très solide parce que du coup, on n'avait pas de risque sur le stock. On avait un petit capital de départ qui était lié aux commandes de nos clients. Et on avait des clients qui étaient déjà ambassadeurs des marques et donc qui parlaient autour d'eux de notre aventure qui naissait. Et donc ça nous a donné une dynamique vraiment géniale.
Alors ça, c'était en 2013, mais au fur et à mesure des années, à chaque fois, vous commencez une nouvelle campagne de financement participatif, toujours sur Ulule, pour pouvoir acheter des machines, pour pouvoir acheter d'autres tissus. Donc vous n'avez jamais abandonné cette technique, cette forme de financement?
En fait, on est une marque participative, 1083, on raconte tout sur le blog, sur les réseaux sociaux, on communique sur nos salaires, sur nos fournisseurs, sur nos marges. J'ai même écrit un bouquin qui s'appelle Remade en France, où on partage toutes les coulisses de 1083. Ça sert à quoi? Ça sert à donner du sens à l'achat à nos clients, ça sert à positionner nos consommateurs comme des co-entrepreneurs avec nous, et du coup, on va jusqu'à co-financer l'aventure avec nos clients. On les intègre vraiment au cœur du réacteur. Donc dès qu'on a un saut technologique, une idée nouvelle, une innovation, eh bien en fait, oui, on les embarque grâce au financement participatif.
Question donc, toute simple maintenant, Thomas Hurier, comment ça va aujourd'hui? On en est où de 1083?
Aujourd'hui, 1083, il y a 7 ans, ça faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires avec deux personnes, Grégoire, mon petit frère, et moi. Et en 2019, on a fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc x 40. Et on est plus de 150 emplois, dont 70 emplois directs. Donc le but du jeu, c'est vraiment de continuer de construire une filière. On y arrive, pas à pas. On a repris une filature, un tissage en France qui allait fermer. On développe un atelier de confection à Romans avec une école du jean pour former des couturières et des couturiers. Et tout ça, c'est tracté. C'est pas nous qui sommes des génies, c'est juste nos clients qui nous tractent, en quelque sorte, qui nous permettent de reconstruire cette filière. Parce qu'ils décident de consacrer 100 euros pour leur jean, non pas à une marque américaine ou à une marque souvent d'ailleurs asiatique dans le fond ou à bas coût, mais à une marque locale qui redistribue l'argent dépensé par le consommateur dans la TVA française, dans le commerce en France, dans la marque en France, dans l'atelier de confection en France, dans le tissage
tout
en France, dans la teinture en France, dans la filature en France.
Absolument, tout est fait en France. Merci à vous Thomas Hurier. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de 1083. C'est la belle histoire avec Ulule. Vincent Ricordo, on l'a entendu avec Thomas Hurier, le citoyen et la transparence sont au centre de ce type d'entreprise.
Oui, c'est une reprise de pouvoir sur son destin, une reprise de pouvoir sur son argent. Et il l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que lorsque vous faites du financement participatif, vous avez bien plus que de l'argent derrière. Vous avez une communauté qui vous suit, vous avez une communauté qui vous porte. Et cette communauté, lorsque vous êtes transparente avec elle et que vous évoluez grâce à elle, peut vous emmener très très loin. La preuve, on a également plein de projets de ce type-là chez nous et c'est la grande victoire du financement participatif.
Est-ce que du coup, quand une campagne ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas très bien, c'est une première alerte pour dire bah, peut-être que le projet n'est pas bien né?
Il faut à minima le revoir dans sa forme, sur le fond, pas forcément, mais dans la forme, c'est sûr. Mais il est sûr que lorsque votre communauté ne vous fait pas confiance, c'est qu'il manque quelque chose de majeur dans votre projet. Ça, c'est une certitude.
Allez, on reste ensemble. Il est 13h39 sur Europe 1, direction les trophées, un projet, un pitch, c'est un moment hein, que vous attendez.
Bah oui, parce que c'est une des promesses de votre émission, découvrir ceux qui agissent et qui construisent le monde de demain dès aujourd'hui. Aujourd'hui, Paulette, c'est le nom d'une paille, vous savez, une paille pour boire, mais elle n'est pas comme les autres, elle est en tige de blé. Alors est-ce que c'est vraiment innovant? On va voir ça dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, c'est parti pour les trophées européens. Ils osent, ils se lancent et chaque jour, on les écoute pitcher devant l'œil attentif et exigeant, attention, hein, de notre patron du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Vincent Ricordeau, le cofondateur de KissKiss Bank Bank.
Et nous sommes avec vous, David Drouin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la France Bouge. Vous êtes le fondateur de Paulette. Paulette, c'est une paille en tige de blé. Elle est 100% naturelle et elle remplace hein, les pailles en plastique. Vous allez tout nous expliquer. Je tiens à dire que vous êtes en pleine campagne Ulule qui se termine demain. Vous avez 45 ans. Vous êtes à Tours. Vous venez de Tours. C'est important aussi de le préciser. Comme quoi, on peut entreprendre à tout moment de la vie. On va vous laisser nous exposer et nous raconter. Racontez qui est Paulette. C'est parti, vous avez une minute.
Merci. Donc notre mission, nous, chez Areca Bio, c'est la recherche continuelle de solutions végétales et compostables dans notre vie de tous les jours. Alors on commercialise déjà des assiettes en feuilles de palmier, 100% végétales et 100% compostables. On a aussi développé donc ces produits qui sont vraiment naturels. Aujourd'hui, au niveau de Paulette, on a créé Paulette puisqu'on s'est dit quelles étaient les alternatives de la paille à boire. Et on est revenu à l'origine du mot paille, c'est-à-dire une tige de blé. Et donc on a créé Paulette, la paille à boire en tige de blé. Alors pourquoi Paulette? Parce que quand j'étais petit, j'allais en vacances chez Mémé Paulette à la ferme. Et avec les cousins, on allait dans les champs de blé pour couper des tiges et puis en faire des pailles à boire. Alors aujourd'hui, on travaille avec un agriculteur en Indre-et-Loire, bio, qui cultive du seigle. On va simplement, au niveau de la moisson, utiliser des fagots. Et ces fagots, ensuite, sont envoyés dans un ESAT, c'est-à-dire un centre pour handicapés, qui, eux, vont simplement les couper, laver, stériliser et emballer. Ensuite, elles sont prêtes à être utilisées. Alors, dans notre nouvelle aventure, on a mis en place un système de précommande sur Ulule.
On a dépassé la minute. Ah, mais c'est pas désolé, grave. C'est... On va continuer à en parler tous ensemble. Merci en tout cas pour votre pitch, David. Votre dossier, avant qu'on en parle là autour de la table, une experte l'a passé au crible. Cette experte, c'est Nathalie Carré de la CCI France. Elle accompagne les créateurs d'entreprises, ça tombe bien, à la Chambre de commerce et d'industrie. Écoutez les forces et les faiblesses de votre projet.
Trois points positifs pour l'entreprise Areca Bio. D'abord, l'attente des Français pour des produits de consommation courante qui sont plus respectueux de l'environnement. Ensuite, des législations françaises et européennes en faveur de l'éco-responsabilité. Et puis enfin, on sent dans ces entrepreneurs une vraie démarche responsable et l'envie d'aider certaines populations avec cette entreprise. Un point à améliorer toutefois, le positionnement et le marketing. Alors, il y a Paulette, qui est la marque des pailles naturelles et Made in France, qui sont fabriquées par des personnes en situation de handicap. Il y a Areca Bio, la marque de la vaisselle biodégradable qui est fabriquée par des femmes indiennes ou népalaises en situation financière difficile, avec un côté commerce équitable, mais qui sont ni bio ni local. Il y a aussi les couverts qui sont en bois et n'ont pas de marque ni d'histoire. Bref, il manque en fait un fil rouge, il manque l'ADN de l'entreprise, ce qu'on appelle sa mission. C'est son socle, c'est les fondamentaux pour éviter que tout bouge tout le temps. Et ça va donner de la stabilité à votre entreprise. Et puis une question pour terminer. Quels sont vos projets de développement et de quoi avez-vous besoin?
Alors, vous avez entendu Nathalie Carré, vous a donné quelques points améliorés qui sont intéressants. Vous en êtes où dans vos projets de développement?
Donc là, au niveau de la paille à boire, on est sur une campagne d'Ulule pour le financement principalement d'un stérilisateur industriel, puisque pour pouvoir les utiliser dans une consommation de tous les jours, il faut les stériliser. Donc c'est une valeur entre 7 et 8 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place sur Ulule une campagne de précommande, c'est-à-dire que vous allez sur Ulule, vous tapez Paulette The French Pie et vous aurez pour 8 euros un pack de 50 pailles.
Mmh. Vincent Ricordeau, cofondateur de KissKiss Bank Bank, vous en pensez quoi? Parce que vous êtes parmi sûrement les Français les mieux placés pour avoir un jugement là.
Bon, j'en pense que c'est une idée géniale qui s'inscrit dans la logique de tous ces créateurs responsables ou éco-responsables qui tous les jours sur des plateformes comme les nôtres proposent des projets du même type où on est dans une logique de création complètement engagée en respectant et l'environnement et ce qui va avec. Donc on est très content de les rencontrer aujourd'hui.
Alors ces pailles, comment elles fonctionnent? Parce que alors moi j'essaye beaucoup les pailles en carton. Celles-ci, il n'y a pas de problème, elles ne vont pas fondre d'une certaine manière. Elles résistent aussi bien
ça sent
au chaud,
vécu, hein.
au froid et tout ça. Après, vous êtes comme moi avec des enfants, Elisabeth, je peux dire que les pailles en carton, c'est pas simple.
Hein. Non, nous, elles sont très, très résistantes. En fait, le fait de les stériliser à chaud, on va dire que ça va pouvoir les rigidifier et faire des choses qui sont vraiment durables dans le temps. Mmh. Après, je ne vous dirai pas si votre enfant commence à la mâcher et puis à l'utiliser.
Oui, mais ça, même le plastique ne résiste pas.
Je pense que ça va faire une utilisation assez restreinte. Mais sur du long, c'est des produits qui sont tout à fait résistants. Et puis après, surtout... compostable, c'est-à-dire que si vous en voulez plus dans votre compost, donc en 90 jours, ça devient végétal. Quoi.
Un point très important que mettait en avant Nathalie Carré, c'est la cohérence de tout ce que vous faites. Effectivement, vous êtes venu ici également avec les assiettes en palmier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est la cohérence de l'ensemble?
La cohérence, c'est vraiment de trouver des produits végétaux qu'on ne va pas utiliser, des produits entre guillemets déchets, puisque la feuille aujourd'hui, avant, il n'utilisait pas, il a jeté. Là, la paille de tige, personne n'en faisait de nombreuses utilisations, à part la paille pour les vaches. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de trouver ces produits végétaux qui ne sont pas utilisés et de les utiliser dans une consommation de tous les jours.
Donc vous transformez ces déchets?
Voilà, en fait, les transformer, et pas forcément une grosse transformation, parce que c'est vraiment des choses simples. La feuille, elle est pressée, la paille, elle est coupée. Donc voilà, on a un process où, dans l'avenir, on aura toujours cette recherche. Et pourquoi pas, demain... utiliser les tiges de tournesol. Enfin, voilà, on est dans une démarche où tout est intéressant et tout est possible.
Tout est possible, hein, et nous, on le voit chaque jour à La France Bouge. Merci à vous, David Drouin, fondateur de Paulette, la paille en tige de blé.
Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez une envie comme ça d'être challengé par notre patron du jour, d'avoir les conseils de notre experte Nathalie Carré, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement nous envoyer votre candidature sur notre boîte mail. Cette boîte mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidats et candidates en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, il est 13h48. On reste ensemble?
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour, ça va trop vite, c'est déjà la dernière partie de votre émission. À vous, là, à la maison ou en voiture, ou où vous voulez pour écouter Europe 1. La France bouge, nous sommes toujours avec notre patron du jour, Vincent Ricordo, le PDG et cofondateur de KissKissBankBank.
Et nous sommes avec Kylian O'Neill. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur du groupe Naturopéra. C'est un groupe spécialisé dans les produits du quotidien bio, écologique. Vous fabriquez aussi des couches écologiques. Vous avez 34 salariés. Vous existez depuis 2013. Et alors vous, si on vous a choisi pour illustrer Demain au travail, c'est parce que vous vous êtes dit qu'il fallait prendre vraiment sérieusement le bien-être en entreprise. Et pour cela... vous avez trouvé des solutions, et notamment, je crois que vous avez mis en place un questionnaire à destination de vos salariés. Racontez-nous.
Oui, alors oui, c'est une démarche collective, puisqu'en fait, ça s'adosse à la RSE de notre entreprise, la responsabilité sociétale et environnementale, donc qu'on a mis en place depuis 2017, et qui, pour nous, n'est pas du tout du formalisme, comme on peut le voir par ailleurs, mais vraiment une démarche qui est portée par l'ensemble des équipes, et qui d'ailleurs aujourd'hui a permis une double certification PME+ et bio-entreprise durable. Donc en fait, au sein de cette démarche d'entreprise, on a plusieurs piliers. Et l'un des piliers qui a permis de faire émerger ce questionnaire, c'est le pilier thème relations et conditions de travail. Et en lien avec le travail du bio-entreprise durable, on a effectivement fait passer un questionnaire de manière anonyme à l'ensemble de nos équipes.
Mmh. Ce qui est marrant, c'est ce qui en ressort. C'est-à-dire que bien évidemment, dans ce questionnaire, vos salariés parlent beaucoup du télétravail. Je crois que vous-même, vous étiez réticent avant le confinement à développer le télétravail, mais ça s'est plutôt bien passé. Puis aussi, grâce à cela, vous réfléchissez à avoir des locaux plus grands et du coup à se dire que vous allez beaucoup plus associer les collaborateurs à ce que seront ces bureaux demain que ce que vous n'auriez fait avant, c'est ça l'idée ?
Oui, en fait, l'objectif global du questionnaire, il est sur l'ensemble des pratiques de l'entreprise. Et effectivement, il est anonyme, donc il a permis de faire ressortir un petit peu de manière très très nette le sentiment de l'ensemble des collaborateurs. Donc oui, effectivement, le télétravail, alors ça a été passé pendant le confinement, donc je ne vous cache pas que heureusement l'expérience était une expérience réussie pendant le confinement pour nous de cette mise forcée en télétravail, mais on était plus que réticents, je dirais qu'on était plutôt de la vieille école, j'allais dire. Hein,
il y en a beaucoup hein, qui se sont révélés la vieille école. Hein.
Je peux vous dire qu'en repas, c'était pareil.
On voilà, est en télétravail depuis le début. Et alors, ils ont été heureux finalement, enfin, à travers les questionnaires, qu'est-ce qu'il en est ressorti hormis le télétravail?
Bah alors déjà, je suis désolé, je vais vous décevoir parce que je peux pas tout vous dire puisque ça devait être le résultat devait être annoncé à un séminaire qui lui-même du fait du Covid a été reporté pour la fin d'année.
Donc vous en gardez un peu pour vos salariés.
En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des très très bons côtés qui sont remontés par rapport à notamment l'autonomie des collaborateurs, la confiance qui leur est accordée, la notion de responsabilité, la reconnaissance qui est portée au travail. On a eu des scores qui sont excellentissimes et là-dessus, je trouve qu'on est vraiment sur une bonne voie. D'autres choses qu'il faut revoir, effectivement, et en lien avec ce que vous disiez à l'instant sur le bureau, puisque les nuisances du bruit qui sont liées à l'open space, c'est quelque chose à revoir. La nécessité de mieux se former, et bien sûr la question du télétravail, puisque l'équilibre pro-perso est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus recherché.
Eh bien, merci beaucoup Kylian Honnel, le cofondateur du groupe Nature Opéra, d'avoir été avec nous comme ça en ligne. Justement, on parle là à l'instant d'équilibre vie de travail, vie personnelle. Vincent Ricordo, vous êtes là en studio avec une tablette d'une célèbre marque à la pomme américaine qu'on ne citera pas, mais vous avez un téléphone que je vais quand même citer, c'est un Nokia 3310, donc a priori qui n'est pas connecté à Internet. J'ai lu que vous aviez votre tablette dans la journée pour travailler et le soir, vous coupez tout, vous arrivez juste avec votre petit portable parce que vous ne voulez pas de mail le soir. C'est ça l'idée? Vous appliquez ça aussi à vos salariés?
Non, mes salariés font ce qu'ils veulent, bien évidemment, mais moi je considère qu'à partir du moment où la journée est terminée, comme on est très sur Internet par les essences, dans notre métier, j'ai envie d'être coupé d'Internet et de ne pas être sollicité par les diverses sollicitudes qui sont fréquentes. Donc du coup, c'est à la fois un choix perso et c'est un choix que j'essaye de façon très pédagogique, proposer aux autres.
Alors, proposer. Petite question d'actu. Hier, le président de la République a annoncé que le congé paternité va être doublé. Hein. Il va passer de 14 à 28 jours. Comment ça se passe chez KissKissBankBank?
Alors, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ce n'est pas encore assez, mais c'est une bonne nouvelle. Chez KissKissBankBank, comme toutes les entreprises du monde pour l'instant, c'est très orienté sur les congés maternité. Mmh. On a de plus en plus de papas qui prennent ce congé-là, mais encore une fois, on n'est pas encore dans une logique égalitaire. Là, on parle juste de congé, on ne parle pas d'assumer en fait, la relation avec un enfant post-naissance. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà bien.
Quand vous dites que ce n'est pas assez, vous réfléchissez-vous chez KissKissBankBank à aller encore plus loin et à dire au papa, bah, on vous donne un petit peu plus que ce que la loi permet aujourd'hui?
Alors, chez KissKissBankBank, on en a toujours été très avant-gardiste sur ces sujets-là. Maintenant, on fait partie du groupe La Poste. On est plus contraint maintenant par la grosse machine, mais on est en train de proposer plein de choses. On réfléchit notamment
donc
à la semaine de 4 jours.
Donc là, vous lancez un message au patron de La Poste, Philippe Val. Merci Philippe d'augmenter le congé parental pour tous les salariés.
Oui, on réfléchit à la semaine de 4 jours qui nous paraît essentielle dans un équilibre vie privée, vie pro.
C'est la fin de votre émission. On a été ravis de vous accueillir, Vincent Ricordo, pendant cette heure-là dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le PDG et le cofondateur de KissKissBankBank. Emmanuel, on va se retrouver, nous, demain à 13h pour une nouvelle France Bouge et nous parlerons de...
Bah hier, je vous ai proposé de prendre le train. Demain, je vous emmène en bus, Elisabeth. Bah je vais
bien,
vous faire le tour de France.
C'est la semaine de la mobilité, ça tombe
exactement,
bien.
Exactement. Le patron de Transdev, notamment, sera notre invité demain à partir de 13h.
À demain, 13h. Et dans un instant, ce sera Christophe Ondelat.